Radio Prague, les informations. Bonjour, le chef du service d'hygiène publique serait atteint de la grippe porcine. L'accord américano-russe sur le désarmement pourrait être signé prochainement à Prague. Enfin, un groupe de parlementaires a nommé le dissident chinois Liu Xiaobo au prix Nobel de la paix. Et on commence donc ce bulletin avec une information pas banale. Le chef du service d'hygiène publique, Michael Witt, serait en effet lui-même atteint de la grippe porcine. L'information a été donnée mardi par le site internet novinky.cz. J'ai des douleurs musculaires, mal à la tête et tous les symptômes de la grippe. Et comme 95% de la population est touchée cette année par la grippe porcine, je suis tout à fait convaincu que je l'ai moi-même contracté, a-t-il déclaré. Lundi, le gouvernement avait donné à Michael Witt la responsabilité de la décision concernant la vaccination obligatoire de toutes les personnalités indispensables à la bonne marche de l'État, policiers, pompiers, militaires, médecins et infirmiers, ainsi que tous les membres du Conseil national de sécurité, y compris le président de la République. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans nos faits et événements. Le nouvel accord entre les États-Unis et la Russie portant sur la limitation des armes stratégiques pourrait être signé à Prague. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'agence de presse russe RIA Novosti, sans donner plus de précisions. Selon le communiqué publié qui cite un des assistants du président russe, cet accord pourrait être signé en mars ou en avril prochain. Dans son édition de mardi, le Wall Street Journal a affirmé que les États-Unis et la Russie avaient trouvé un accord de principe pour limiter le nombre de têtes nucléaires. Selon les deux parties, les négociations sont presque terminé. Un groupe de parlementaires tchèques, membres de différents partis politiques, a nominé le dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo au prix Nobel de la paix. À l'exception des communistes, 40 représentants de tous les partis siégeant à la Chambre des députés ont signé la nomination. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'ancien ministre en charge des affaires européennes, Alexandre Vondra, lui-même ancien dissident sous le régime communiste en Tchécoslovaquie. Il a précisé qu'il avait sollicité uniquement les personnalités qui s'étaient engagées dans la lutte pour les droits de l'homme et la démocratie dans le passé. Intellectuel militant pour les droits de l'homme, Liu Xiaobo a été condamné à 11 ans de prison pour subversion en décembre dernier. Cette condamnation a provoqué de nombreuses réactions internationales. Liu Xiaobo a notamment rédigé l'ébauche de la charte 08, manifeste inspiré de la charte 77 en Tchécoslovaquie, qui réclame la démocratisation de la Chine. On passe au sport. Deux clubs tchèques ont disputé mardi les matchs allés des huitièmes de finale de l'Euroleague féminine de basketball. Brno a pris une option sur la qualification en s'imposant à Madrid en Espagne sur le parquet de Rivas Ecopolis 88-83. En cas de nouvelle victoire à domicile, lors du match retour vendredi, les Moraves seront qualifiés pour les quarts de finale. La tâche sera plus compliquée en revanche pour l'USK Prague, battu par Valence en Espagne, 70-81. Le match retour à Prague est également programmé pour vendredi. On termine avec un mot de météo. Le ciel reste couvert sur l'ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Blajeis, avec encore quelques chutes de neige par endroit. Les températures varient entre moins 5 et 1 degré pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Un scandale éclabousse le géant énergétique Chez, accusé d'utiliser des méthodes qui frisent le paramilitaire afin de recouvrer les dettes de ses mauvais payeurs. On reviendra sur le drame qui touche Haïti avec le témoignage d'un médecin tchèque qui revient de l'île dévastée par un séisme il y a 3 semaines. Et pour finir, on parlera de l'élection de l'oiseau de l'année 2010. Cette année, c'est le coucou gris qui est distingué, une espèce menacée dont le nombre tend en effet à diminuer. Voilà un ton plutôt grave dans cette émission, ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie. Je vous le disais en titre, l'information a été dévoilée par le serveur du quotidien Mladá Frontadnes des employés du géant énergétique tchèque Čez. La société nationale de production et de distribution d'électricité ont suivi des stages d'entraînement de tir et d'arts martiaux, des stages intensifs pour recouvrer les dettes des clients réfractaires, qu'ils soient mauvais payeurs ou fraudeurs qui volent de l'électricité. Une information qui fleure le début de scandale. Cela fait déjà quelque temps que l'unité de lutte contre le crime organisé observer les pratiques pratiques pour le moins spéciales de certains employés de la société Chase. Aujourd'hui, elle procède à des inculpations. Les forces de l'ordre ont en effet confisqué à la section mise en cause des vidéos montrant des entraînements d'autodéfense tels que le tir, la survie en milieu hostile, le combat ou la défense contre l'attaque de chiens. Cet entraînement spécial était suivi par des employés chargés d'aller contrôler les mauvais payeurs et de récupérer les sommes dues à la société pour la consommation d'électricité. C'est Yann Rittich, l'avocat de ses clients qui se sentent molestés, qui a sorti les vidéos.
Ce n'est pas le travail des électriciens d'apprendre à descendre en rappel, à tirer au pistolet, à lancer des grenades ou à faire du parachute. C'est terrible et je ne veux pas que de telles personnes approchent de mes enfants ou de mes parents.
De son côté, la société Chase se défend et réfute les affirmations de l'avocat selon lesquelles ses employés se rendent armés chez des mauvais payeurs. On écoute Martin Pavlicek, porte-parole de la société Chase, qui justifie ses stages d'entraînement.
Nous sommes convaincus, et d'ailleurs nous en avons les preuves, que nos employés font souvent face à des agressions. Les gens les attaquent avec des armes ou lancent les chiens sur eux. C'est peut-être grâce à ces entraînements spéciaux qu'il n'y a jamais eu de tragédie. La personne qui se retrouve dans ce type de situation de stress doit être prête à utiliser l'arme de son agresseur pour se défendre. C'est à cela que servent ces entraînements.
L'affaire fait d'autant plus de bruit que l'une des vidéos montre comment un homme est retrouvé mort, vraisemblablement suicidé, alors qu'une équipe de Chase vient pour le contrôler pour fraude. L'unité de lutte contre le crime organisé a inculpé 32 employés du géant énergétique pour violation de propriété et pour avoir obligé certains clients voleurs d'électricité à payer de fortes sommes d'argent. À gauche comme à droite, les hommes politiques crient au scandale. La société Chase, qui est en partie financée par les L'État sera sans doute obligé de dissoudre cette unité spéciale controversée dont les pratiques pourraient relancer le débat sur la formation parfois aux limites du paramilitaire de certaines agences de sécurité. Le chirurgien Jan Trachta est le premier médecin tchèque parti avec une équipe de Médecins sans frontières en Haïti pour y soigner les blessés. De retour d'une mission de 2 semaines, il apporte au micro de Yarka Gisubelova son témoignage sur la situation des survivants et sur la façon dont les équipes chirurgicales travaillent 24 heures sur 24.
Les débuts étaient assez dramatiques. Lorsque nous sommes arrivés à Port-au-Prince, il y avait partout des cadavres en décomposition et à leur côté, devant les ruines d'hôpitaux, des centaines de blessés attendaient d'être soignés.
Parti au lendemain du séisme, Jan Trachta est arrivé dans la capitale haïtienne 2 jours plus tard. Il a fallu terminer le voyage en bus parce que son avion a été détourné vers la République dominicaine. Durant sa mission, il a fait lui-même 80 opérations chirurgicales et a soigné plus de double de patients. Il s'agissait le plus souvent d'amputations suite aux plaies infectées, mais aussi de césariennes.
J'ai pratiqué une césarienne directement dans la rue sur une table. La seule chose stérile que j'avais sur moi à ce moment-là, c'était des gants. J'ai désinfecté le champ opératoire, endormi la femme par une dose de kétamine et j'ai extrait le bébé. Après avoir appliqué des antibiotiques, j'ai suturé l'incision en laissant la femme posée sur la table car il n'y avait aucune autre possibilité de la placer ailleurs. Tous les patients opérés sur le trottoir devant l'hôpital qui a été détruit sont envoyés aussitôt après derrière la porte où ils restent dans la rue.
Les impressions sont encore très fortes et Jan Trachta n'a pas eu le temps de faire le tri, faisant allusion à ce qui était le plus difficile dans sa mission.
Dans notre terminologie, on l'appelle le triage des patients aux urgences selon la gravité de leur état. Dans les conditions qui régnaient en Haïti, le triage n'était pas possible. Nous étions obligés de laisser une partie importante des blessés mourir dans la rue, car nous manquions de matériel, d'infirmières, de lits. Le risque que les patients meurent dans la rue après l'intervention était si élevé qu'on ne pouvait pas faire autrement et perdre du temps, vu le grand nombre de blessés. blessés qu'il était possible de sauver. Le plus souvent, la priorité était donnée aux enfants qui avaient des fractures ouvertes et dont nous savions qu'il était dans nos moyens de leur apporter une aide rapide et efficace.
Tous les hôpitaux haïtiens ont été endommagés. La peur de se trouver dans des bâtiments durs continue de se faire sentir chez les blessés de la catastrophe. Des hôpitaux gonflables et mobiles ont été aménagés partout dans l'urgence. Yann Trachta a d'abord travaillé avec une équipe internationale de Médecins sans frontières dans ce qu'on appelle le nouvel hôpital Carrefour, aménagé sous des tentes à quelques mètres de l'hôpital des Truilles, pour passer le reste de sa mission de 2 semaines dans la ville de Léogane, située à l'ouest de Port-au-Prince.
J'ai quitté la mission très fatigué, mais très heureux aussi, car je pense que Médecins sans frontières y a fait un travail immense.
Comme il le souligne encore, après les aides d'urgence, les Haïtiens auront besoin d'une aide de longue durée, prothèses, greffe de peau, soins psychologiques, programmes nutritionnels pour les enfants et prévention d'épidémies. 2 infirmières et une équipe de logisticiens tchèques sont en ce moment sur le point de partir avec Médecins sans frontières pour Haïti. D'autres médecins tchèques y travaillent déjà dans le cadre de l'ONG People Need. Pour Yann Trachta, 32 ans, parti comme premier chirurgien tchèque avec Médecins sans frontières en Haïti, cette mission n'était pas sa première. À 2 reprises, il est allé porter secours à la population du Congo dévastée par la guerre civile.
Le coucou gris est l'oiseau de l'année 2010. Derrière cette élection qui peut faire quelque peu sourire se cache en réalité un cri d'alarme lancé par la société tchèque d'ornithologie. Pendant ces 30 dernières années, la population de coucou gris en République tchèque a été réduite de moitié. Anne-Claire Veluire.
Le chant du coucou gris qui nous est tous familier et qui est célébré dans de nombreuses comptines et chansons populaires aussi bien en France qu'en République tchèque risque de se faire de plus en plus rare. Et c'est donc pour avertir le public de cette situation qu'il a été désigné oiseau de l'année 2010. On écoute Zdeněk Vermuzek, directeur de la société tchèque d'ornithologie.
L'élection du coucou gris s'est faite parce que cette année 2010 a été désignée l'année internationale de la biodiversité. Et nous voulions entrer dans ce thème de la biodiversité, l'expliquer, le montrer avec une espèce qui est connue, qui interpelle chacun de nous. Et le coucou gris correspond à cela, car il y a peu d'espèces qui sont aussi populaires. Actuellement, en République tchèque, c'est une espèce qui diminue et qui peut, à terme, ne plus être aussi courante qu'auparavant.
Une des particularités du coucou gris est la façon dont les femelles parasitent le nid d'autres oiseaux. Elles gobent un œuf du nid d'origine pour que l'oiseau hôte ne se rende pas compte de la différence du nombre d'œufs avant d'y déposer le sien. Les oisillons coucou doivent éclore avant ceux de leur refuge et ils les éliminent en les poussant hors du nid. Ils sont ensuite nourris par un oiseau d'une autre espèce, généralement des espèces de passereaux. Le coucou gris est aussi un oiseau migrateur qui voyage entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique en hiver pour revenir en Europe au printemps. Les causes de sa diminution sont pour l'instant inconnues, mais les spécialistes pointent du doigt les méthodes de l'agriculture intensive. Selon le zoologue Evgen Kous, le problème est plus large encore que cela.
Les raisons sont nombreuses, tout est lié parce que chaque écosystème, chaque biotope est créé à partir de nombreux éléments visibles et invisibles. Mais la plupart du temps, ici en Europe, c'est l'influence de l'homme, l'urbanisation croissante et les changements dans la production agricole. Bien sûr, dans la nature, il y a une évolution et des disparitions d'espèces, mais cela prend des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'années, alors que dans ce cas-là, ça se fait à vue d'œil.
Avec cette élection du coucou gris comme oiseau de l'année, une campagne axée sur les enfants a été lancée où ils pourront participer sur Internet à un projet international d'observation du retour des oiseaux au printemps intitulé « Le printemps vivant ». Lukáš Viktora de la Société tchèque d'ornithologie.
Spočívá to v tom, že vlastně jednotlivé třídy nebo i celé školy.
Le projet consiste en ce qu'une classe ou même l'école entière suive l'arrivée de quatre espèces très connues d'oiseaux migrateurs, à savoir l'hirondelle, le martinet noir, la cigogne blanche et le coucou, qui a donc été choisi oiseau de l'année 2010.
Je v letošním roce ptákem roku.
La République tchèque compte actuellement entre 35 000 et 70 000 couples de coucous gris.
C'est la fin des faits et événements. Tout de suite, on passe à la rubrique historique.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Nous refermerons aujourd'hui le cycle d'émissions consacré au discours du Nouvel An des présidents tchécoslovaques, une tradition instaurée par le président fondateur Tomáš Garrigue Masaryk et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Après le général Ludvík Svoboda, ancien combattant sur les fronts de l'Est, élu à la tête de la Tchécoslovaquie en mai 1968 et resté dans ses fonctions jusqu'en 1975, c'est Gustavus Sák, le premier et probablement aussi le dernier Slovaque qui est installé au château de Prague. Gustavus Sák a encore une particularité, celle d'être le dernier président communiste et l'artisan de ce qu'on appelle la normalisation. Le retour au communisme de plomb se reflète dans ses discours du Nouvel An plein de clichés idéologiques. L'année 1977 en fournit une preuve.
Permettez-moi de remercier les citoyens dont le travail honnête a contribué à la réalisation d'excellents résultats dans tous les domaines de la vie de notre société socialiste. Le fait que nous vivions depuis plus de 3 décennies dans des conditions de paix a joué un rôle crucial dans le développement de notre patrie. Notre alliance étroite avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes frères est, était et sera une garantie de notre liberté, de notre indépendance et d'une vie paisible de nos citoyens.
En prononçant ce discours, Gustav Husák s'est senti réellement au sommet de sa carrière politique. Tout portait à croire que l'objectif fixé appelé normalisation, c'est-à-dire la restauration complète et totale du pouvoir communiste en Tchécoslovaquie après une brève période de renouveau, a été atteint, comme l'observe l'historien Oldřich Tuma, un observateur attentif des discours présidentiels.
V roce 1975 byl podepsán Helsinský závěrečný akt.
En cette année 1975, l'acte final de la conférence d'Helsinki était signé. Les cadres du régime communiste tchécoslovaque, tout comme d'ailleurs l'ensemble des dirigeants des autres pays socialistes, percevaient l'achèvement du processus d'Helsinki comme un succès. Dans cette optique, Gustav Husák pouvait prononcer son discours avec la ferme conviction d'une vision de l'avenir relativement optimiste.
Il est assez paradoxal de constater que le jour même où Gustav Husák prononçait son discours optimiste, le premier document officiel de la dissidence tchécoslovaque, la Charte 77, était publié. Inutile de rappeler que ses signataires furent durement persécutés. Pourtant, il ne demandait rien d'autre que l'introduction dans la pratique des principes de l'acte d'Helsinki concernant les droits civiques, politiques, sociaux et culturels. La politique est à nouveau intervenue de très près dans la vie de la société, souligne Oldřich Tuma.
Cette politique dite réelle, qu'on croyait avoir cessé d'exister après 1968, est réapparue sous forme de campagne hostile à la Charte 77 et ses signataires. Malgré les mesures de répression, le régime n'est pas parvenu à briser l'opposition qui s'est formée dans le pays et qui était une opposition d'un nouveau type. Et cette polarisation politique, le régime versus l'opposition, a duré jusqu'à la fin des années 1980, lorsque cette opposition finira par l'emporter sur le régime qui va s'écrouler.
1989, de nouvelles formules se font entendre dans le discours de Gustave Hussac lorsqu'il parle de la nécessité d'un regard critique de la situation de la perestroïka, de l'utilité d'établir des rapports mutuellement avantageux avec les pays occidentaux. Son discours reflète l'évolution de l'Union soviétique définie par la nouvelle doctrine de Gorbatchev. Et les dirigeants communistes des pays satellites de Moscou sont obligés de s'y adapter, souvent contre leur gré, explique Tuma.
Až na malé výjimky především čekali, kdy konečně ten podivný experiment v Moskvě.
À quelques exceptions près, des dirigeants attendaient la fin de cette drôle d'expérience pratiquée par Moscou à leur retour à la normale, ce qui n'a pas été le cas, heureusement. En 1989, des nouvelles accablantes pour les régimes en place ne cessaient de parvenir avec une rapidité que personne n'osait imaginer. Table ronde en Pologne, premières élections législatives libres en Pologne, changement politique en Hongrie, chute de régime en République démocratique allemande, chute du mur de Berlin. Quelques jours après, ce sera au tour de la Tchécoslovaquie et sa révolution de velours. À 3 semaines d'un supposé nouveau discours présidentiel du nouvel an, Gustav Husák a présenté le 10 décembre 1989 son discours d'abdication.
Místo toho 10. prosince bude pronášet svůj abdikační projev.
Le mot socialiste figurait encore dans le nom officiel du pays lorsque Václav Havel, élu président de la République le 29 décembre 1989, a prêté serment sur la constitution de la République socialiste tchécoslovaque. Son premier discours du Nouvel An, prononcé le 1er janvier 1990, est toutefois diamétralement opposé à ceux que les Tchèques étaient habitués d'entendre jusqu'alors.
Milis poloobčané. 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců.
Chers concitoyens, pendant plus de 40 ans, vous avez entendu de la bouche de mes prédécesseurs à peu près les mêmes phrases, celles sur la prospérité du pays, sur la fabrication de billions de tonnes d'acier, sur une vie heureuse des citoyens, sur leur confiance dans leurs dirigeants et leurs belles perspectives qui s'ouvrent devant nous. Je suppose que vous ne m'avez pas élu dans les fonctions de président pour que je répète ces mensonges. Non, notre pays ne fleurit pas.
Abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
Les émissions en français de Radio Prague, c'est terminé, mais l'info continue, vous le savez, sur le web au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 0.130 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.